Chapitre 13 De merveilleuses nouvelles. Le jardin d'hiver du palais était glacial, malgré les flammes qui crépitaient dans les deux cheminées à chaque bout de la salle. L'épaisse moquette et le toit de verre incliné qui laissait entrer les rayons du soleil n'y changeaient rien. Cela dit, pour des audiences, l'endroit n'était pas pire qu'un autre. Et Katsuane avait jugé préférable de ne pas investir la salle du trône. Jusque-là, le seigneur Dobrein n'avait pas rué dans les brancards sous prétexte qu'elle détenait Caroline Damodred et Darlene Cisnera, le meilleur moyen de les empêcher de nuire, sans conteste. Mais il changerait d'avis si elle dépassait ce qu'il considérait comme convenable. Trop proche de Rand pour qu'elle le brusque, l'homme était en plus scrupuleusement fidèle à ses serments. Par le passé, Katsuane avait connu des échecs, certains lui laissant une terrible amertume, et commis des erreurs qui avaient coûté des vies. Aujourd'hui, elle n'avait pas le droit de se tromper, en aucun cas. Par la lumière, elle aurait voulu mordre quelqu'un.
« J'exige le retour de ma régente des vents, Aes Sedai !»
rugit Arryn Dyn Togara. En tenue de soie verte, elle était assise en face de Katsuane, un rictus sur ses lèvres charnues. Bien qu'elle n'eût pas une ride, ses cheveux noirs étaient striés de blanc. Nommée maîtresse des vagues de son clan 10 ans plus tôt, elle commandait un gros vaisseau depuis bien plus longtemps que ça. Sa maîtresse des voiles, Dera Dyn Selahan, une femme plus jeune vêtue de bleu, se tenait sur un siège placé un pied derrière le sien, le strict respect du protocole en vigueur chez les Ataan Nyeré. Les deux femmes étaient l'incarnation de l'indignation, leur quincaillerie de bijoux ajoutant encore à cet effet. Quand Ébène, humblement inclinée, leur présenta un plateau laissé de gobelets de vin chaud aux épices, aucune ne daigna lui accorder un regard. Le jeune Ébène ne sembla pas savoir comment réagir face à ce refus. Le front plissé, il resta incliné, jusqu'à ce que Daegyan, en robe bleu marine rayée de blanc, le tire par sa veste rouge et l'entraîne en souriant. Très mince, un gros nez et de larges oreilles, Ébène n'était ni beau ni mignon. Mais Daegyan en était fort jalouse. Ensemble, ils s'assirent sur un banc rembourré devant une des cheminées et jouèrent à un jeu de ficelle.
« Ta sœur nous aide à établir ce qui s'est passé en cette triste journée »,
répondit presque distraitement Katsuane. Prenant une gorgée de vin, elle attendit, sans tenter de dissimuler son impatience. Même si Dobrein râlait d'abondance sur l'impensable marché passé par Raphaëla et Merana au bénéfice de Randaltor, ce sale gamin, le seigneur aurait pu se charger lui-même des Ata Admiré. Katsuane, elle, ne pouvait pas leur dire la moitié de ce qu'elle pensait. Selon toute vraisemblance, c'était préférable pour elle. Si elle se concentrait sur les deux femmes, elle aurait quelque peine à ne pas les écraser comme de vulgaires moustiques, alors qu'elles n'étaient pas la véritable cause de son exaspération. À l'opposé de Daegyan et Ébène, 5 sœurs avaient pris place devant l'autre cheminée. Penchées sur un lutrin, Nesune lisait un gros livre à reliure de bois, prélevé dans la bibliothèque du palais. Comme les autres, elle portait une robe de laine ordinaire, qu'on aurait plutôt vue sur une marchande. Si ces 5 femmes se languissaient d'une tenue de soie, ou de l'argent nécessaire pour en acheter une, elle ne le montrait pas. Reconnaissable à ses fines tresses ornées de perles, sa reine bordait des fleurs des champs sur une grande tapisserie campagnarde. Sous le regard attentif d'Elsa, qui affronterait la gagnante, Eryenne et Beldaine disputaient une partie de pierre. Apparemment, ses Aes Sedai se détendaient par une matinée tranquille. Avait-elle conscience d'être là parce que Katsuane entendait les étudier? Pourquoi avait-elle donc juré allégeance au jeune Altor? Au moins, Kiruna et les autres se trouvaient devant lui, lorsqu'elles avaient décidé de lui jurer fidélité. Katsuane admettait volontiers qu'on ne pouvait guère résister à l'influence d'un Taveren quand on était pris dans ses filets. Mais ses 5 sœurs, lourdement punies pour l'avoir enlevée, avaient résolu de se rallier à lui avant même de lui être présentées. Au début, Katsuane avait plus ou moins accepté leurs explications oiseuses, mais depuis quelques jours, elle n'y était plus encline du tout, mais alors plus du tout.
« Aes Sedai, ma régente des vents n'est pas sous ton autorité !»
siffla Arryn, agressive comme si elle cherchait à faire oublier son lien de parenté avec Shallon.
« Elle doit revenir vers moi sans délai !»
Dera approuva du chef. Rien d'étonnant, se dit Katsuane. La maîtresse des voiles aurait acquiescé même si Arryn lui avait ordonné de sauter d'une falaise. Dans la hiérarchie des Ata Admiré, Dera était nettement en dessous de Arryn. En gros, c'était à peu près tout ce que Katsuane savait des deux femmes. Le peuple de la mer pourrait, ou non, se révéler utile, mais avant, il fallait trouver un moyen de le contrôler.
« L'enquête est menée par des Aes Sedai, et nous devons suivre les lois de la tour. »
En les interprétant très librement, cela dit. Depuis toujours, Katsuane professait que saisir l'esprit d'une loi était bien plus important que la suivre à la lettre. Agressive comme une vipère, Arin se lança dans une nouvelle tirade, reprenant ses revendications, avec un long exposé sur ses droits légitimes. Mais Katsuane l'écouta plus que distraitement. Dans l'affaire qui l'intéressait vraiment, elle aurait presque pu comprendre Erian, une Ilianienne au teint pâle et aux cheveux noirs, déterminée à être aux côtés du jeune Altor à l'heure de l'ultime bataille. Idem pour Beldaine, si récemment nommée Aes Sedai qu'elle n'avait pas encore l'apparence intemporelle coutumière. Résolue à être tout ce qu'une sœur verte pouvait être, elle réagissait comme il convenait. Elsa, une jolie Andorienne, avait les yeux brillants lorsqu'elle évoquait ce qu'elle prenait pour sa mission, s'assurer qu'Altor vivrait jusqu'à sa confrontation avec le Ténébreux. Encore une sœur verte, et parmi les plus exaltées. Penchée sur son livre, Nessune faisait penser à un oiseau aux yeux noirs observant un ver de terre. Membre de l'âge marron, pour l'amour de la science, elle serait entrée dans une boîte avec un scorpion, histoire de mieux l'étudier. Assez stupide pour s'étonner qu'on la trouve jolie, voire superbe, sa reine, en bonne sœur blanche, insistait pourtant sur le côté imparable de sa logique. Rand Altor étant le dragon réincarné, elle devait rationnellement lui être loyale. Des motivations oscillant entre exaltation et crétinisme. Pourquoi pas? Katsuane aurait pu les prendre pour argent comptant, s'il n'y avait pas eu les autres. Les portes de la véranda s'ouvrirent pour laisser entrer Vérine et Soriléa. La hyène, aux cheveux blancs et à la peau parcheminée, tendit à la sœur marron un petit objet, qu'elle glissa dans sa bourse. Sur la poitrine de sa robe couleur bronze toute simple, Vérine arborait une broche en forme de fleur, le seul bijou que Katsuane l'ait jamais vu porter à part sa bague au serpent.
« Ça t'aidera à dormir, »
dit Soriléa.
« Mais n'oublie pas, 3 gouttes dans de l'eau ou 1 dans du vin. Dépasse un peu la dose et tu risques de dormir une journée entière, voire plus. Dépasse-la beaucoup et tu ne te réveilleras pas. Le goût du breuvage ne t'alarmera pas, donc sois très prudente. »
Ainsi, Vérine avait elle aussi du mal à dormir. Depuis que le fichu gamin avait quitté le palais du soleil, Katsuane n'avait plus passé une bonne nuit. Si ça continuait, elle risquait de mordre quelqu'un pour de bon. Nessune et les 4 autres lorgnèrent sombrement Soriléa. Rand Altor en avait fait des apprentis des matriarches, et les Aiel prenaient ça très au sérieux. D'un claquement de doigts, Soriléa pouvait mettre un terme à la matinée de détente. Arin se pencha en avant sur son siège et tapa du bout des doigts sur la joue de Katsuane.
« Tu ne m'écoutes pas !»
exposa-t-elle, furieuse. Sa maîtresse des vagues semblait à peine moins outragée.
« Mais tu vas tendre l'oreille !»
Katsuane croisa les mains et regarda la ta admirée par-dessus le bout de ses doigts. Non, elle n'allait pas donner une bonne leçon à la maîtresse des vagues. Pas question qu'elle reparte en pleurs vers ses appartements. Il fallait être aussi diplomate que Koiren pouvait le désirer. Katsuane récapitula le peu qu'elle avait écouté, puis se jeta à l'eau.
« Tu parles au nom de la maîtresse des navires des Ata-Anyere, avec tout le poids de son autorité, qui dépasse mon entendement. Si ta régente des vents n'est pas de retour dans une heure, tu feras en sorte que le corps à mort me châtie sévèrement. En outre, tu exiges des excuses pour l'incarcération de ta régente. Et tu m'ordonnes d'obliger le seigneur Dobrain à livrer immédiatement les terres promises par le corps à mort. Ai-je bien résumé ?»
À un détail près, les menaces de flagellation.
« Ce n'est pas trop mal. »
fit Arin, en se radossant à son siège. Elle eut un sourire satisfait.
« Tu apprendras bientôt que... »«
Mais il y a un bémol. »
coupa Katsuane d'un ton mielleux.
« Je me contrefiche de ton corps à mort. »
Le dragon réincarné, oui, c'était essentiel. Le corps à mort ne comptait pas.
« Et si tu me touches encore une fois sans ma permission ?»
continua Katsuane sur le même ton.
« Je te ferai déshabiller, saucissonner, et ramener dans tes appartements au fond d'un sac. »
Tant pis. Après tout, la diplomatie n'avait jamais été son fort.
En d'autres termes, si tu persistes à me casser les pieds avec ta chère sœur, il se pourrait que je m'énerve.
Ignorant les grognements indignés de la Tan Miré, Katsuane se leva et lança à voix très haute, pour qu'on l'entende à l'autre bout de la salle.
« Sa reine !»
La tarabonaise leva les yeux de sa broderie, ce qui fit cliqueter ses tresses, bondit sur ses pieds, rejoignit Katsuane au pas de course et s'inclina devant elle. Si les matriarches avaient dû inculquer l'obéissance à ses sœurs, devant Katsuane, elles retrouvaient sans effort les réflexes de leur noviciat. être une légende avait ses avantages, surtout quand on était célèbre pour une humeur changeante.
Escorte ces deux femmes jusque chez elles. Elles ont manifesté le désir de jeûner et de méditer sur les bonnes manières. Assure-toi qu'elles le feront. Et si elles te parlent mal, balaie comme plâtre. Avec diplomatie, cependant.
Sa reine ouvrit la bouche, comme si elle voulait signaler l'illogisme de cette recommandation, mais un regard de Katsuane l'en dissuada, et elle se tourna vers les Hatta admirés, leur faisant signe de se lever. Arin bondit sur ses pieds, furibarde. Avant qu'elle ait pu déverser son fiel, Dera lui tapota le bras, puis se pencha pour lui parler à l'oreille. Quoi qu'elle ait dit, ça cloua le bec à Arin. Sans se radoucir, elle jeta un coup d'œil aux cinq sœurs à l'autre bout de la salle, puis fit signe à sa reine de la précéder. Une façon de faire croire qu'elle se retirait de son plein gré. Dera la suivant comme son ombre, histoire qu'elle ne change pas d'avis, l'effet fut totalement gâché. Quand les trois femmes furent sorties, Katsuane faillit regretter d'avoir donné un ordre idiot. À présent, sa reine allait exécuter ses consignes à la lettre. Irritante au possible, les Hatta admirés s'étaient jusque-là révélés d'une totale inutilité. Pour se consacrer à l'essentiel, Katsuane devait dépasser son irritation. Et si elle finissait par trouver un usage à ses femmes, eh bien, tous les outils ne devaient-ils pas être calibrés ?
Furieuse contre Arin et Dera, la légende n'était pas d'humeur à prendre des gants. Et tant qu'à calibrer, pourquoi ne pas commencer au plus tôt ? En réalité, Katsuane était folle de rage contre Rand, mais lui, elle ne pouvait pas encore l'atteindre. En se raclant bruyamment la gorge, Soriléa détourna les yeux de la porte et les braqua sur les sœurs assises devant la cheminée. Puis elle ajusta son châle dans un grand cliquetis de bracelets. Comme Katsuane, elle était d'une humeur de chien. Le peuple de la mer avait une vision très particulière des sauvages Aiel. En toute franchise, avant de connaître Soriléa, Katsuane partageait l'essentiel de ses préjugés. Bien entendu, les matriarches abominaient les Hatta admirés. Katsuane alla à la rencontre de l'Aiel, le genre de femme à qui on ne faisait pas signe d'approcher. Au palais, tout le monde croyait qu'elle devenait amie. Et c'était plus ou moins le cas, si surprenant que ce fût. Et personne n'était informé de leur pacte secret. Eben approcha avec son plateau et sembla soulagé quand Katsuane daigna poser dessus son gobelet encore à demi-plein.
« Tard cette nuit !»
dit Soriléa, alors qu'Eben retournait à la hâte auprès de Deigian.
« Shisein Nourbaya a demandé à servir le Karakarn. Un peu avant l'aube, Janine Pavlara l'a imité. » Puis Inina Darrenhold et Vayel Kamsa ont suivi le mouvement. Pour éviter toute collusion, ces femmes n'avaient pas été autorisées à communiquer entre elles. Du coup, j'ai accepté leur demande. Je suppose qu'elles subissent leur châtiment en ce moment même, fit Katsuane.
La légende réfléchit à la vitesse de l'éclair. 19 sœurs avaient été prisonnières dans le camp des Aiel. Un groupe envoyé par cette idiote Delaïda pour enlever Altor. Et voilà que toutes lui avaient juré fidélité. Les trois dernières ayant fini d'enfoncer le clou.
Qu'est-ce qui peut pousser des sorts rouges à s'engager auprès d'un homme capable de canaliser ?
Vérine fit mine de parler, mais elle se ravisa, sans doute à cause de la présence de Soriléa. Bizarrement, dans son rôle d'apprentie contrainte et forcée, la sœur semblait parfaitement à l'aise. Pour preuve, elle passait le plus clair de son temps dans le camp des Aiel.
Il n'y aura pas de châtiment, Katsuane Melaïdrine,
dit Soriléa avec un geste presque nonchalant.
Ces femmes essaient de s'acquitter d'un taux dont il est impossible de se défaire. En un sens, c'est aussi absurde que notre décision de les nommer Datsang. Mais elles ne sont pas au-delà de toute rédemption, si elles ont vraiment la volonté d'essayer.
Soriléa détestait ses 19 sœurs, d'où son amertume. Elle eut pourtant un petit sourire.
Quoi qu'il en soit, nous leur apprendrons des choses indispensables.
Soriléa semblait croire que tout Aes Sedai tirait profit d'un apprentissage sous la coupe des matriarches.
J'espère que vous continuerez à les garder à l'œil, dit Katsuane. En particulier les quatre dernières.
À coup presque sûr, ses sœurs respecteraient leur stupide serment, comme Rand l'entendait. Mais il ne fallait pas écarter l'hypothèse qu'une ou deux d'entre elles appartiennent à l'âge noir. Par le passé, Katsuane s'était cru sur le point d'éradiquer cet âge, mais il s'était volatilisé entre ses mains comme de la fumée. L'échec le plus dur à encaisser pour la légende. À part peut-être la fois où elle n'était pas parvenue à apprendre ce que le cousin de Caroline d'Amodren mijotait dans les terres frontalières, avant que ce soit de notoriété publique en tout cas. À présent, sur la liste des priorités, l'âge noir était très loin de la première place.
« On surveille toujours de près les apprentis, »
répondit Soriléa.
« Il faudra que je rappelle à celles-là qu'elles peuvent être reconnaissantes d'avoir le droit à la paresse, comme des chefs de tribu. »
Les quatre sœurs encore assises devant la cheminée se levèrent vivement, s'inclinèrent humblement, puis écoutèrent ce que la matriarche avait à leur dire. Si Sorilea avait encore beaucoup à apprendre aux sœurs, ces quatre-là avaient déjà compris qu'un châle d'Aes Sedai n'était en rien une protection pour les apprentis d'une matriarche. Aux yeux de Katsuane, le taux ressemblait beaucoup à un châtiment.
« Sorilea est impressionnante, »
murmura Vérine.
« Je me félicite qu'elle soit de notre côté, si c'est bien le cas. »
Katsuane foudroya la sœur du regard.
« Tu as l'air d'une femme qui n'a pas envie de dire ce qui lui brûle pourtant la langue. C'est au sujet de Sorilea ?»
Le pacte était encore très mal défini. Amitié ou non, Katsuane et Sorilea pouvaient très bien se retrouver un jour dans des camps opposés.
« Non, »
répondit la petite femme costaude. En dépit de son visage carré, lorsqu'elle inclinait la tête, elle ressemblait à un moineau bien gras.
« Je sais que ça ne me regarde pas, Katsuane, »
continua-t-elle.
Mais Béra et Kiruna n'arrivaient à rien avec nos invités. Du coup, j'ai eu une petite conversation privée avec Shallon. Après un interrogatoire presque courtois, elle m'a révélé toute la vérité. Et Aili l'a confirmé dès qu'elle a compris que je savais tout. Peu après l'arrivée des Hata Admiré, Aili s'est entretenue avec Shallon pour apprendre ce que ses femmes voulaient au jeune Altor. Pour sa part, Shallon désirait en savoir le plus long possible sur lui et au sujet de la situation ici. Il s'est ensuivi des réunions fréquentes, un lien personnel, puis un lien intime, puisqu'elles sont devenues complices d'oreillers. Surtout à cause de leur solitude, j'imagine. Quoi qu'il en soit, plus que leurs activités d'espionnes, c'était ce qu'elles essayaient de cacher.
« Elles ont enduré des jours et des jours de torture pour dissimuler ça ?»
s'écria Katsuane, incrédule. Béra et Kiruna les avaient fait hurler de douleur. Une lueur malicieuse dansa dans les yeux de Vérine.
« Les Kerienyennes sont très pudibondes, en public au moins. Dans le secret d'une chambre à coucher, elles ont la jambe plutôt leste. Mais dès que quelqu'un écoute, elles refuseraient d'admettre qu'elles touchent leur propre mari. Les Hata admirés sont presque aussi strictes. Shallon a pour mari un homme qui est souvent absent, et rompre des vœux d'épousailles est un très grave crime. Une atteinte à la discipline morale, semble-t-il. Si sa sœur découvre son forfait, Shallon pourrait se retrouver régente des vents sur une barque, selon ses propres paroles.
Katsuane secoua la tête et sentit osciller les ornements de sa coiffure. Après l'attaque contre le palais, quand les deux femmes avaient été découvertes dans la chambre d'Ailil, ligotées et bâillonnées, elle les avait soupçonnées d'en savoir bien plus long sur cette affaire qu'elle voulait bien le dire. Lorsqu'elles avaient refusé de révéler pourquoi elles se rencontraient en secret, il n'y avait plus eu de doute. Katsuane s'était même dit qu'elles avaient participé à l'assaut, pourtant en apparence lancé par les Ashamans renégats, censément renégats pour le moins. Tellement d'énergie et de temps gaspillés. Tout ça pour... Enfin, il y avait quand même peut-être anguille sous roche, mais rien n'était moins sûr.
Vérine, escorte Dame Aili jusqu'à ses appartements, avec toutes les excuses qui s'imposent. Assure-la aussi, sans trop insister, que ses confidences resteront secrètes. En fait, insiste assez peu pour qu'elle comprenne le contraire. Puis suggère-lui lourdement de me tenir au courant de tout ce qu'elle entendra au sujet de son frère.
Katsuane n'aimait pas recourir au chantage, mais après tout, elle s'en était déjà servie contre les trois Ashamans, et Thoram Riatin pouvait encore être une source de problèmes, même si son mouvement rebelle semblait s'être volatilisé sans laisser de traces. À dire vrai, l'Aes Sedai se fichait de savoir qui siégerait sur le trône du soleil. En revanche, les complots des gens qui accordaient de l'importance à ces détails futiles interféraient trop souvent dans les plans vitaux. Vérine sourit et hocha la tête, son chignon oscillant en cadence.
« Oui, je crois que ce sera très efficace. D'autant plus qu'Aili déteste son frère. Et pour Shallon, même régime, histoire d'avoir une espionne chez les Hata admirés. Mais jusqu'à quel point acceptera-t-elle de trahir Arin? J'ai peur qu'elle lui reste loyale, malgré les conséquences désagréables que ça aura. Elle trahira, ne t'inquiète pas. Et c'est moi qui déterminerai jusqu'à quel point. Garde-la jusqu'à demain, le plus tard possible. »
Dans le dos de Vérine, Corel entra et referma doucement la porte, comme si elle s'efforçait de ne déranger personne. Une discrétion qui n'était pas dans ses habitudes, mais bon. D'une minceur de jeune garçon, les sourcils noirs broussailleux, elle arborait une crinière de cheveux bruns brillants, qui lui donnait un air négligé malgré l'impeccable propreté de sa tenue. En principe, cette sœur jaune était du genre à entrer dans une pièce en riant. Là, le bout de son nez en trompette plissé, elle semblait perplexe, et aucune étincelle ne brillait dans ses yeux bleus. Lorsque Katsuane lui adressa un geste impérieux, Elle inspira à fond, puis souleva l'ourlet de sa jupe bleue à rayures jaunes et avança en jetant un coup d'œil autour d'elle. Après avoir repéré les sœurs Massé autour de Soriléa, puis localisé des Yann et Eben, toujours concentrés sur leur jeu de ficelle, elle parla d'une voix douce au très léger accent du Murundi.
« Je t'apporte des nouvelles merveilleuses, Katsuane. »
À son ton, on n'aurait pas juré que c'était si merveilleux que ça.
« Tu m'as ordonné de garder Damer occupé ici, je sais. Mais il a insisté pour aller voir les sœurs encore retenues dans le camp des Aiel. D'habitude d'un caractère accommodant, dès qu'il veut quelque chose, cet homme devient une vraie teigne. Selon lui, il n'y a aucune maladie qui ne se puisse guérir. Au camp, il a soigné Irgain. Un miracle, Katsuane. À croire qu'elle n'a jamais été... »
Corel se tut, incapable de prononcer le mot « calmé ».«
De merveilleuses nouvelles, oui, »
confirma Katsuane. La stricte vérité. Chaque sœur portait au plus profond de son être l'angoisse d'être un jour définitivement coupée du pouvoir. Et voilà qu'on venait de découvrir le moyen de guérir ce qu'on avait toujours cru incurable. Un homme avait réussi cet exploit. Avant que cette pilule soit avalée, il y aurait bien des larmes et des récriminations. Quoi qu'il en soit, et même si toute sœur mise au courant estimerait qu'il s'agissait d'une révolution venue d'un homme par-dessus le marché, toute cette affaire, comparée à Randall Thor, était une tempête dans un verre d'eau.
Je suppose qu'Irgain se proposera pour être flagellé, comme les autres. « Ce ne sera pas nécessaire, »
fit Vérine, soudain distraite. Sourcils froncés, elle observait une tache d'encre sur son index. Enfin, elle faisait mine, mais en réalité, elle regardait autre chose, plus loin.
« Les matriarches ont décidé, semble-t-il, que Rand a suffisamment puni Irgain et les deux autres quand il a, eh bien, fait ce qu'il a fait. Alors qu'elle traitait les autres comme de vulgaires animaux, les Aiel ont œuvré dur pour garder ces trois sœurs-là en vie. J'ai entendu dire qu'elles envisageraient de trouver un mari à Renail. Irgain sait tout sur les serments qu'ont prêté les autres, »
dit Corel, sans cacher sa stupéfaction.
Depuis que Damer a fini de la guérir, elle pleure la mort de ses champions. Mais elle est disposée à prêter serment aussi. Le hic, c'est que Damer veut également essayer de traiter Sachal et Renail.
Bizarrement, Corel se redressa, presque en signe de défi. Arrogante comme toutes les sœurs jaunes, elle avait pourtant toujours su rester à sa place face à Katsuane.
S'il y a une chance de l'en sortir, je n'envisage pas de laisser une sœur dans ce triste état. Katsuane, je veux que Damer tente de guérir Ronaï et Sachal.
Bien entendu, Corel.
L'insistance de Damer déteignait-elle sur la Sedai? Aucune importance. Tant que ça n'allait pas trop loin, Katsuane voulait bien laisser faire. Le jour où elle avait entendu parler d'étranges événements au Chienard, ses espions surveillaient Swan Sanche et Moiraine Damodred depuis des années, sans jamais rien apprendre d'utile jusque-là, elle avait commencé à réunir des sœurs de confiance. Celles qui étaient présentes ici et d'autres. Cela dit, se fier à elles ne signifiait pas qu'elle leur laisserait la bride sur le cou. Pour ça, les enjeux étaient trop élevés. Mais abandonner une sœur dans cet état lui semblait tout aussi inconcevable qu'à Corel. La porte s'ouvrit pour laisser débouler Jahar, les clochettes fixées au bout de ses tresses noires tintinabulant comme pour l'annoncer. Du coup, toutes les têtes se tournèrent vers le jeune homme, sanglé dans une belle veste bleue choisie par Mérise. Oui, même Soriléa et sa reine regardèrent. Mais les mots qui jaillirent de sa bouche firent vite oublier la beauté de son visage hâlé par le soleil.
Katsuane, Alana est inconsciente. Elle vient de s'écrouler dans un couloir. Mérise l'a fait transporter dans une chambre, puis elle m'a envoyé te chercher.
Sans se soucier des exclamations et des petits cris, Katsuane fit signe à Soriléa et à Corel de l'accompagner. Impossible de les tenir à l'écart de cette affaire. Puis elle indiqua à Jahar de leur montrer le chemin. Vérine suivit le mouvement, et Katsuane ne fit rien pour l'en empêcher. Avec son œil d'aigle, cette femme leur serait peut-être très utile. Même s'ils ignoraient qui était Jahar, les domestiques en livrée noire s'écartèrent promptement dès qu'ils aperçurent Katsuane. Tentée de dire au jeune homme d'accélérer le rythme, la légende s'en abstint, parce que dans ce cas, elle aurait dû se mettre à courir. Se campant devant elle, un petit homme au front poudré vêtu d'une veste noire aux rayures colorées horizontales obligea la Sedai à s'arrêter.
« Que la grâce soit avec toi, » Katsuane Sedai, dit-il d'un ton mielleux. Désolé de te déranger alors que tu sembles très pressé, mais tu dois savoir que Dame Caroline et le Haut-Seigneur Darlin ne sont plus au palais de Damarilin. En fait, ils ont embarqué sur un bateau fluvial en direction de Théar. J'ai peur qu'ils soient hors de ta portée alors qu'il est.
Seigneur Dobrain, tu serais surpris par l'étendue de ma portée, si tu savais tout de moi.
Katsuane aurait dû laisser au moins une sœur chez Damarilin. Mais elle aurait juré que le couple ne pourrait pas filer.
« Était-ce très avisé ? »
demanda-t-elle. Il y avait la main de Dobrain dessous.
même s'il n'aurait sûrement pas le cran de le reconnaître. Pas étonnant qu'il n'ait pas insisté pour qu'elle s'en mêle. Le ton glacial de la légende ne fit aucun effet à Dobrain, qui s'offrit le luxe de la surprendre.
Le haut seigneur Darlin va devenir le régent de Théar, pour le compte du seigneur Dragon. Et il m'a semblé avisé d'envoyer la dame Caroline très loin d'ici. Elle a abjuré la rébellion et renoncé à revendiquer le trône du soleil. Mais des esprits mal intentionnés pourraient encore vouloir l'instrumentaliser. Katswane Sedai, il était peut-être imprudent de laisser ces deux personnes sous la surveillance de domestiques. Que la lumière m'en soit témoin, vous ne devez pas leur en vouloir. Ils auraient pu retenir deux invités, mais résister à mes hommes n'était pas dans leurs moyens.
Pressé de repartir, Jahar piaffa d'impatience. Décidément, Mérys le tenait d'une main ferme. Mais Katswane elle-même avait hâte de rejoindre Alana.
« J'espère que vous trouverez toujours cette manœuvre avisée dans un an »,
conclut Katswane. Dobrain s'inclina sans un mot. La chambre où reposait Alana, la plus proche parmi celles qui étaient libres, n'était déjà pas grande, et les lambris sombres dont les Kyrianiens raffolaient la faisaient paraître encore plus petite. Une fois que tout le monde fut entré, elle sembla minuscule. Mérys claqua des doigts. Docile, Jahar se retira dans un coin, mais ça ne changea pas grand-chose. Sur le lit, Alana avait les yeux fermés et son champion, Yvonne, agenouillé à son chevet, lui frictionnait un poignet.
« Elle semble avoir peur de reprendre conscience, » dit-il. « Je ne vois rien qui cloche chez elle, sauf qu'elle paraît effrayée. »
Corel écarta le grand type mince et prit le visage d'Alana entre ses mains. Alors que l'aura du Saïdar enveloppait la sœur jaune, les flux de guérison se déversèrent sur Alana, qui ne broncha même pas. Secouant la tête, Corel recula.
« Je ne suis pas aussi doué que toi pour la guérison, »
dit sèchement Mérys.
« Mais j'avais essayé. »
Après tant d'années, son accent tarabonais était encore marqué. En revanche, contrairement à ses compatriotes, elle portait les cheveux tirés en arrière. Un austère chignon qui accentuait son air sévère.
« Que faisons-nous, Katswane ?»
Le visage de marbre, n'étaient ses lèvres un peu pincées, Soriléa étudiait la femme étendue sur le lit. Katswane se demanda si elle remettait en question leur pacte. Les yeux également rivés sur Alana, Vérine semblait terrifiée. Surprise que quelque chose puisse faire un tel effet à cette sœur connue pour sa solidité, Katswane dut reconnaître qu'elle n'était pas rassurée non plus. Si elle perdait maintenant ce lien précieux avec le maudit gamin...
« On s'assied et on attend qu'elle se réveille, »
dit-elle avec un grand calme. Il n'y avait rien d'autre à faire, absolument rien.
« Où est-il ?»
rugit Demandred, les poings serrés dans son dos. Bien campé sur ses jambes, il avait conscience de dominer l'assistance, comme toujours. Même ainsi, il aurait voulu que Semiraj ou Messahana soient là. Si leur alliance était fragile, un accord stipulant qu'ils ne se retourneraient pas les uns contre les autres avant d'avoir éliminé la concurrence, elle tenait bon depuis longtemps. Ensemble, ils avaient déstabilisé leurs adversaires, les entraînant parfois à leur perte, voire à un pire sort que la mort. Hélas, pour Semiraj, il était difficile de participer à ces réunions. Mais Saana, elle, se montrait peu ces derniers temps. Parce qu'elle envisageait de mettre un terme à l'alliance ?
Altor a été vu dans 5 mégalopoles, y compris ce maudit endroit dans le désert. Et une dizaine de villes depuis que ces crétins aveugles, les imbéciles, ont raté leur coup à Kairien. Et les rapports que nous avons reçus sont sûrement incomplets. Le grand seigneur seul sait ce qui est toujours en route pour nous ridiculiser un peu plus. À cheval, à dos de mouton, ou par je ne sais quels autres moyens que ces sauvages utilisent pour envoyer des messages.
Étant arrivée la première, Grindal avait choisi le décor, ce qui irritait Demandred. Les murs panoramas générait l'illusion que le parquet sans tapis était entouré par une forêt semée de fleurs multicolores, où des oiseaux au plumage bigarré lançaient joyeusement leurs trilles. Dans l'air paisible, une myriade de parfums enchantait les narines. Une illusion parfaite, n'était l'arche de la porte d'entrée qui gâchait tout. Pourquoi Grindal avait-elle opté pour le souvenir de ce qui était perdu ? Ils auraient tout aussi bien pu fabriquer des lance-chocs ou des ailes chauds qu'un mur panorama donnant sur l'extérieur de ce lieu proche de Shagalghoul. De plus, sauf si sa mémoire lui jouait un tour, Grindal détestait tout ce qui touchait de près ou de loin à la nature. Osangar plissa le front, en entendant les mots « crétin » et « imbécile ». De son point de vue, il y avait de quoi. Mais il rendit très vite son expression normale au visage ridé très ordinaire qu'il arborait désormais. si différent de celui avec lequel il était né.
« Une affaire de chance, »
dit-il d'un ton calme, même s'il commença à se frotter nerveusement les mains. Une vieille habitude. Comme un dirigeant de cet âge, il portait une veste tellement brodée qu'on voyait à peine sa couleur, du rouge en l'occurrence, et des bottes au revers ornées de pompons dorés. À son cou et à ses poignets, il y avait assez de dentelle pour habiller un enfant. Depuis toujours, le sens du mot « excès » lui échappait. Sans ses compétences très particulières, il n'aurait jamais figuré parmi les élus. S'avisant de ce que faisaient ses mains, il s'empara d'un gobelet de vin en quendillard posé sur une table basse, près de son fauteuil, et huma longuement l'arôme du nectar.
« Les probabilités, c'est tout, »
fit-il, feignant la nonchalance.
« La prochaine fois, Altor sera tué ou capturé. La chance ne lui sauvera pas éternellement la mise. »«
Tu entends dépendre de la chance ?»
lança Arangar. Comme s'il s'agissait d'une chaise longue, elle était voluptueusement étendue dans un grand fauteuil. Avec un sourire éthéré pour Osangar, elle plia une jambe afin que la fente de sa jupe rouge vif dévoile une cuisse de toute beauté. À chaque inspiration, la soie rouge sur sa poitrine menaçait d'exploser pour révéler ses généreux appas. Depuis qu'elle était devenue une femme, ses manières et sa gestuelle avaient changé. En revanche, le noyau dur, placé dans cette enveloppe féminine, restait tel qu'il avait toujours été. Démandred était loin de cracher sur les plaisirs de la chair. Mais un jour, son avidité provoquerait la perte d'Arangar. Et ce ne serait pas la première fois. Aucune raison de se lamenter, surtout si cette mort-là avait la bonne fortune d'être la dernière.
« Oh, Sangar, tu étais chargé de le surveiller, »
rappela Arangar de sa voix la plus lascive.
« Toi et Démandred. »
Voyant Osangar tressaillir, la reptilienne beauté éclata d'un rire de gorge.
« Ma mission, c'est de… »
Appuyant avec son pouce sur le bord du fauteuil, comme si elle voulait y épingler quelque chose, elle rit de nouveau.
« Arangar ?»
murmura Grendal par-dessus son gobelet.
« Je m'attendais à te voir plus inquiète. »
Des mots prononcés avec un mépris aussi peu dissimulé que l'était la chair aux courbes envoûtantes, sous le tissu argenté de sa robe vaporeuse.
« Toi, Osangar, Démandred et Moridin, où qu'ils soient, vous devriez peut-être redouter le succès de Randaltor autant que son échec. »
Hilar, les yeux pétillants de malice, Arangar prit la main de Grendal.
« En privé, tu pourrais sans doute me préciser bien mieux ta pensée. »
La robe de Grendal vira au noir et devint complètement opaque. Après avoir dégagé sa main, elle s'éloigna du fauteuil d'Arangar, qui eut un gloussement moqueur.
« Que veux-tu dire ?»
demanda Osangar, furieux, en se levant péniblement de son siège. Une fois debout, il saisit les revers de sa veste, une pose de conférencier, et continua d'un ton pédant.
« Pour commencer, cher Grendal, je doute que quiconque, y compris moi, puisse débarrasser le Saïdin de l'ombre du Grand Seigneur. » Cet Altor n'est qu'un primitif. Tout ce qu'il tentera échouera. Entre nous, j'ai du mal à croire qu'il sache seulement par où commencer. Quoi qu'il en soit, nous l'arrêterons, parce que le Grand Seigneur nous l'a ordonné. Je peux comprendre qu'on redoute son courroux en cas d'échec, une éventualité bien peu probable. Mais pourquoi ceux que tu viens de citer devraient-ils s'inquiéter tout particulièrement ?
« Aveugle et stérile, comme toujours, »
marmonna Grendal. Dès qu'elle se fut ressaisie, sa robe redevint transparente, mais passa de l'argent à l'écarlate. Était-elle moins calme qu'elle l'assurait ? Voulait-elle faire mine de contrôler une agitation qu'elle n'éprouvait pas ? À part le tissu de sa robe, du straight, tous ses ornements venaient de l'âge actuel. Les larmes de feu dans ses cheveux blonds, le gros rubis niché entre ses seins et les bracelets d'or glissés à ses deux poignets. Il y avait autre chose. Intrigué, Démandred aurait aimé savoir si quelqu'un d'autre avait remarqué. Un anneau d'or très simple, au petit doigt de sa main gauche. Grendal et simplicité étant des antonymes.
Si ce jeune garçon réussit à éliminer l'ombre du Grand Seigneur, eh bien, ceux qui canalisent le Saïdin parmi nous n'auront plus besoin de sa protection si particulière. Se fiera-t-il à vous dans ces conditions ?
Souriante, Grendal sirota son vin. Osangar ne sourit pas. Soudain très pâle, il s'essuya la bouche du revers de la main. S'asseyant au bord de son fauteuil, Arangar ne se soucia plus d'avoir l'air provocante. Les doigts repliés comme des serres, elle regarda Grindal, prête à lui sauter à la gorge. Demandred desserra les poings. Enfin, on jouait carte sur table. Avant que revienne le temps du soupçon, il avait espéré qu'Altor mourrait ou serait au moins capturé. Pendant la guerre du pouvoir, plus d'une dizaine d'élus avaient péri à cause de la méfiance du grand seigneur des ténèbres. Entrant dans la pièce comme s'il était leur maître à tous, Moridine lança sans préambule.
« Le grand seigneur est certain que vous êtes tous loyaux. »
Enclin par le passé à se prendre vraiment pour le maître, Moridine arborait à présent un visage juvénile. Mais ça ne changeait rien. Malgré ses propos encourageants, il avait l'air sinistre. Et sa tenue uniformément noire convenait très bien à la signification de son nom, la mort, tout simplement.
« Inutile de vous inquiéter tant qu'il ne change pas d'avis. »
Comme un animal domestique, la fille nommée Sindane collait au basque de Moridine. En rouge et noir, les cheveux argentés, elle arborait une paire de seins hors du commun. Pour une raison connue de lui seul, Moridine avait sur l'épaule un rat, dont le museau grisâtre humait l'air tandis que ses petits yeux noirs balayaient la pièce. Rajeunir n'avait rien fait pour la santé mentale de cet homme, à l'évidence.
« Pourquoi nous as-tu convoqués ici ?»
Sans qui demanderait.
« J'ai beaucoup à faire, et pas de temps à perdre en bavardage. »
D'instinct, il essaya de se grandir pour être au niveau de l'autre élu.
« Mais Saana est encore absente ?»
lança Moridine au lieu de répondre.
« Quel dommage. Elle aurait dû entendre ce que j'ai à dire. »
Prenant le rat par la queue, Moridine le regarda se débattre en vain. Pour lui, plus rien ne sembla exister, à l'exception du rongeur.
« Des détails apparemment insignifiants peuvent devenir très importants. »
souffla-t-il.
« Ce rat, par exemple. Ou savoir si Issam réussira à trouver et à tuer cette autre vermine nommée Fane. Un mot murmuré dans la mauvaise oreille, ou jamais prononcé devant la bonne. Un papillon bat des ailes sur une branche, et à l'autre bout du monde, une montagne s'écroule. »
Le rat se retourna et tenta de mordre Moridine au poignet. Nonchalant, l'élu projeta le rongeur au loin. En plein air, l'animal s'embrasa, une explosion de flammes plus chaude que n'importe quel feu, puis se volatilisa. Moridine eut un sourire ravi. Malgré lui, Demandred tressaillit.
Du vrai pouvoir, et il n'avait rien senti.
Dans les yeux de Moridine, des étincelles noires tourbillonnaient. Pour avoir gagné tant de Saa aussi vite, Moridine devait avoir recouru exclusivement au vrai pouvoir depuis leur précédente rencontre. Pour sa part, Demandred ne se connectait jamais au vrai pouvoir, sauf quand c'était absolument indispensable. Bien entendu, seul Moridine avait ce privilège depuis son adoubement. N'empêche, il était fou de ne pas s'imposer de limites. Ce pouvoir était une drogue plus addictive que le Saïdine et plus mortelle que du poison. Son sourire rendu plus menaçant par le Saa, Moridine approcha et posa une main sur l'épaule d'Osangar, qui frémit et réussit à produire un pâle sourire.
« Tu n'as jamais songé à éliminer l'ombre du grand seigneur, »
dit Moridine.
« Et c'est très bien. »
Combien de temps était-il resté derrière la porte ? Le sourire d'Osangar tourna au rictus.
« Altor n'est pas aussi sage que toi. Dis-leur tout, Sindane. »
La petite femme se redressa. De forme et de visage, elle évoquait une prune prête à être cueillie. Mais ses grands yeux bleus glaçaient les sangs. Une pêche, plutôt. Avec son noyau empoisonné.
« Vous n'avez pas oublié les Choedan Kal, j'imagine. »
Rien n'aurait pu rendre cette voix rauque moins sensuelle, même quand elle vibrait d'ironie.
« Loustérine s'est procuré deux clés. Une pour chaque Sangréal, et il connaît une femme assez puissante pour utiliser l'artefact féminin. Bien entendu, il prévoit de se servir des Sangréal pour arriver à ses fins. »
Tout le monde se mit à parler en même temps.
« Toutes les clés ne sont pas détruites ?»
s'écria Arangar en se levant d'un bond, les yeux écarquillés de peur.
S'il essaie de manipuler les Choedan Kal, il peut détruire le monde.
Si tu avais lu autre chose que des livres d'histoire,
lâcha Osangar,
tu saurais que ces clés sont indestructibles, ou presque.
Comme s'il étouffait, il tira sur son col.
Comment cette fille peut-elle savoir qu'il les détient? Comment?
Après l'annonce de Sindane, Grindal avait lâché son gobelet, qui roulait toujours sur le sol. Sa robe, soudain rouge sang, elle fit une grimace, comme si elle était sur le point de vomir.
« Et tu espérais simplement le rencontrer par hasard ?»
cria-t-elle à Demandred.
Ou que quelqu'un le trouve pour toi ! Imbécile ! Sinistre crétin !
Demandred trouva le numéro de Grindal un peu poussé, même pour elle. Cette nouvelle, aurait-il parié, ne l'avait pas surprise le moins du monde. Il faudrait la garder à l'œil désormais. Une main sur le cœur, la posture typique d'un amoureux transi, Moridine saisit le menton de Sindane et la força à relever la tête. Si ses yeux brûlaient de fureur, son visage aurait pu être celui d'une poupée. Et ce fut bien la soumission d'une poupée qu'elle manifesta à son maître.
« Sindane sait beaucoup de choses, »
souffla Moridine.
« Et elle me dit tout. Oui, absolument tout. »
L'expression de la petite femme ne changea pas, même si elle se mit à trembler. Une énigme pour Demandred, cette Sindane. Au début, il avait cru qu'il s'agissait d'une réincarnation de l'Anfear. En cas de transmigration, on choisissait en principe les corps disponibles. Osangar et Arangar, cependant, témoignaient du sens de l'humour cruel du grand seigneur. Demandred avait été certain de sa théorie, jusqu'à ce que Messa Anna lui apprenne que la fille était bien moins puissante que l'Anfear. Selon Messa Anna et les autres, Sindane appartenait à cet âge. Pourtant, elle parlait de l'Oustérine, comme l'Anfear. Et les Choedankal avaient éveillé en elle une terreur habituelle, chez tous ceux qui avaient vécu la guerre du pouvoir. À part les torrents de feu, rien n'était plus redoutable. Et encore. Moridine avait-il appris tout ça à sa marionnette? Pour servir un de ses desseins tortueux, s'il en avait? Régulièrement, il sombrait dans la folie et agissait sans motif apparent.
« Eh bien, il apparaît qu'il doit être tué, finalement, »
dit Demandred, avec toutes les peines du monde, à cacher sa satisfaction. Randaltor ou Loustérine Telamon, quand cet homme serait mort, il serait plus facile de dormir la nuit.
Avant qu'il puisse détruire le monde et nous tuer. Du coup, la priorité, c'est de le trouver.
Le tuer ?
Moridine bougea ses mains, comme si elles étaient les deux plateaux d'une balance.
Si on en arrive là, oui.
Quant à le trouver, ce n'est pas un problème. Dès qu'il touchera les Choedankal, vous saurez où il est. Alors vous irez le rejoindre et vous le capturerez ou l'abattrez, si nécessaire. Ainsi parle le Naiblis.
Aux ordres du Naiblis,
fit Sindane en inclinant la tête. Les élus lui firent écho. Arangar d'un air sinistre, Osangar avec des sanglots dans la voix, et Grindal d'un ton bizarrement pensif. Devoir incliner la tête en prononçant ces mots fut une torture pour Demandred. Ainsi, ils allaient devoir capturer Altor alors qu'ils tentaient d'utiliser les Choedankal, rien que ça, en compagnie d'une femme assez emplie de pouvoir de l'unique, comme lui, pour faire fondre des continents. Et rien n'indiquait que Moridine serait avec eux, pas plus que ses marionnettes jumelles, Mogadienne et Sindane. Pour l'instant, ce type était le Naiblis. Mais avec un peu d'ingéniosité, de la part de ses adversaires, il pourrait bien ne pas trouver de corps la prochaine fois qu'il crèverait. Et avec un peu de chance, ce serait pour bientôt.